Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Anne Cantner.
Bienvenue sur Accent d'Europe. Alors que Vladimir Poutine devra être réélu sans entrave à la fin de la semaine à la présidence de la Russie et pour cause, aucun opposant n'a été autorisé à se présenter.
La propagande russe ne se limite pas à ses simples frontières. Elle a réussi à infiltrer de nombreux partis européens situés aux deux extrêmes de l'échiquier, mais aussi certains pays.
Le régime du Premier ministre hongrois Viktor Orban en est un. Et si l'on en croit les sondages, la majorité des Hongrois est derrière lui. Seuls 16% d'entre eux estiment que l'Europe devrait soutenir l'Ukraine et 64% pensent qu'il faudrait plutôt pousser à la signature d'un accord de paix. Des chiffres qui contrastent avec le reste de l'opinion publique européenne. Comment expliquer cette différence? C'est le reportage à Budapest de Florence Labruyère.
En février dernier, lors du deuxième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, Viktor Orban fait une déclaration sur les réseaux sociaux. Sur fond de musique hollywoodienne, le Premier ministre hongrois martèle le même message qu'il répète dans son empire médiatique. Plutôt que d'aider l'Ukraine à se défendre, il faut la pousser à signer la paix.
Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il ne faut pas l'étendre, mais l'arrêter. La Hongrie prône un cessez-le-feu et l'ouverture de négociations pour la paix. Nous appelons autour de la table les deux parties ainsi que nos alliés qui pour l'instant soutiennent la guerre, l'Union européenne et l'OTAN.
Sur le parvis de l'université Corvinus, face au Danube, des adeptes du skateboard profitent des premiers beaux jours. C'est là qu'on rencontre Tibor, un étudiant de 19 ans. Il est en première année de sciences économiques. Lui aussi pense que l'Europe devrait pousser l'Ukraine à négocier un traité de paix.
À mon avis, tout le monde a intérêt à ce que la paix soit signée. Au moins, ça serait la fin de tous ces combats. Je ne pense pas que l'Ukraine perdrait beaucoup de territoire.
La télévision publique et les nombreux médias privés détenus par le clan de Viktor Orban ne cessent de le répéter. La guerre en Ukraine n'est pas bonne pour l'économie hongroise. Et Tibor a la même opinion.
La guerre a un impact sur nous. L'inflation, c'est la conséquence de la guerre. Les pays qui soutiennent l'Ukraine font la course pour trouver des matières premières et des composants et ça nourrit la hausse des prix. Et les sanctions contre la Russie freinent nos économies. Les sanctions ont peut-être un bon côté, mais elles ont aussi un côté négatif. Elles privent des entreprises et des pays de débouchés commerciaux importants.
Maté, 21 ans, est également étudiant. Il lit beaucoup la presse étrangère. Il pense au contraire que l'Europe et la Hongrie doivent soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine.
C'est important que les Ukrainiens résistent pour garder l'intégrité de leur territoire. Ils ont le droit de se défendre et à mon avis, chaque gouvernement a l'obligation de les soutenir. Je ne dis pas qu'il faudrait envoyer des soldats là-bas, non, ce serait trop. Mais il faut soutenir les Ukrainiens pour qu'ils se défendent, qu'ils préservent leur souveraineté, leur indépendance et qu'ils décident eux-mêmes de leur avenir. C'est ça les valeurs européennes. L'Europe et l'OTAN ont le devoir de les aider.
Mais Maté le reconnaît, peu de Hongrois sont du même avis que lui.
Moi, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, mais la majorité de la société croit qu'il ne faut pas du tout s'impliquer aux côtés de l'Ukraine. Et si les gens sont aussi nombreux à penser ça, c'est à cause de la communication du gouvernement qui joue un grand rôle.
Avec près de 500 médias publics et privés dans son giron, le régime de Viktor Orban détient 80% du paysage médiatique. Un empire qui est au service de la communication du gouvernement, observe le chercheur Gabor Poyak, spécialiste des médias.
Depuis le début de la guerre, le gouvernement martèle les idées suivantes. L'Ukraine n'a aucune chance de gagner le conflit, la paix est la seule solution et c'est à l'Ukraine de s'engager dans des pourparlers de paix.
Des idées proches de la rhétorique russe. Ce n'est pas étonnant, Viktor Orban est connu pour cultiver sa proximité avec Vladimir Poutine. Mais cette proximité n'est pas la seule raison pour laquelle Orban refuse d'aider l'Ukraine à se défendre. La guerre a éclaté 2 mois avant les élections législatives en Hongrie. Et le parti de Viktor Orban a saisi le prétexte du conflit pour convaincre les Hongrois de voter pour lui.
Si le Fidesz a remporté un tel succès aux élections législatives de 2022, c'est parce qu'il a trouvé un slogan percutant. Vous voulez la guerre ou la paix? Vous voulez que vos enfants aillent se battre en Ukraine contre la Russie qui n'est pas notre ennemi? Et ce slogan a convaincu une large partie de la population, pas seulement les électeurs du Fidesz.
Pour justifier la position du Premier ministre, les médias pro-Orban vont encore plus loin. Comme les médias russes, ils passent leur temps à dénigrer l'Ukraine, explique ce spécialiste des médias.
Dans les médias pro-gouvernementaux, on entend souvent dire « la politique ukrainienne est mauvaise, les politiciens sont corrompus, ils mobilisent de force les hommes dans l'armée ». Bref, l'Ukraine est décrite comme le méchant de l'histoire.
La polémique actuelle sur l'éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine renforce la peur des Hongrois sur une extension du conflit. Une peur que Viktor Orban entend continuer à exploiter.
Et en Slovaquie, c'est un populiste, Robert Fico, qui a repris les rênes du gouvernement. Il devrait être conforté dans ses positions lors de la prochaine élection présidentielle à la fin du mois, où l'un de ses proches est donné favori. Bratislava, un autre bastion pro-russe en territoire européen. Les explications de notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig.
Le fait que le chef de la diplomatie slovaque ait récemment rencontré son homologue russe a symbolisé pour beaucoup le très sérieux problème que pose désormais le gouvernement en place à Bratislava après les déclarations de Robert Fico hostile au soutien à l'armée ukrainienne et favorable au Kremlin. Robert Fico avait annoncé la couleur pendant sa campagne électorale, mais l'orientation prise par la Slovaquie en quelques mois inquiète ses alliés les plus proches, à Prague notamment, où le gouvernement tchèque vient de suspendre les consultations régulières avec Bratislava. Au sein des quatre pays du groupe de Visegrad, la Slovaquie est désormais quasiment sur la même ligne que le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui continue d'entretenir de bonnes relations avec Moscou. Relancer les programmes de coopération avec la Russie et la Biélorussie a d'ailleurs été l'une des premières initiatives annoncées par la ministre de la Culture de Robert Fico. L'élection de son ancien lieutenant Peter Pellegrini à la présidence de la République dans une dizaine de jours pourrait laisser encore davantage de champs libres au Premier ministre pour opérer des changements que l'opposition craint irrémédiables pour la Slovaquie, tant en politique intérieure que dans le domaine des affaires étrangères.
En Allemagne, c'est le parti d'extrême droite AfD, Alternative für Deutschland, qui affirme clairement ses positions pro-Poutine.
Oui, à sa fondation en 2013, le parti voulait surtout l'abandon de l'euro. Mais depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et la guerre en Ukraine, les cadres dirigeants ont changé. Ils viennent de l'Est de l'Allemagne. On retrouve à Berlin une de nos correspondantes, Delphine Nerbollier. Delphine, ce sont des dirigeants plus radicaux et qui militent clairement pour la fin des sanctions contre Moscou.
L'AfD veut la levée des sanctions contre la Russie car selon elle, elles sont injustifiées et elles défavorisent l'économie allemande. L'AfD prône donc la reprise des livraisons de gaz russe et se présente comme le parti de la paix en demandant des négociations immédiates avec Moscou. Elle est soutenue en cela par une partie des Allemands de Russie, cette minorité germanophone de l'ex-Union soviétique qui a pu être rapatriée en Allemagne dans les années 1990 après la chute du rideau de fer. Ils sont un des piliers de l'électorat de l'AfD. Rappelons quand même aussi qu'une minorité au sein de l'AfD soutient l'Ukraine et est très critique envers la Russie.
C'est dans l'est de l'Allemagne, Delphine, que se situe le bastion de l'AfD. En quoi est-ce important ?
Eh bien, cela joue un grand rôle dans la Saxe, en Thuringe, par exemple, des régions qui ont vécu durant 40 ans sous le régime communiste. C'est ce que nous explique le politologue Kai Arzheimer de l'université de Mayence.
Wenn man sich
Quand on analyse le soutien des Allemands envers l'Ukraine depuis 2 ans, on remarque une nette différence entre l'Ouest et l'Est du pays. Cela a peut-être à voir avec le fait qu'il existe encore une certaine sympathie et des liens culturels à l'Est avec la Russie. Mais je pense surtout qu'il règne dans l'Est de l'Allemagne un plus grand scepticisme envers les États-Unis et l'OTAN. Et bien sûr, l'AFD essaie d'en profiter.
Et idéologiquement, qu'est-ce qui rapproche l'AFD de la Russie de Poutine ?
Tout d'abord, un net glissement de l'AFD vers des positions très nationalistes, très anti-Occident, anti-OTAN, voire anti-Union européenne. Mais il y a d'autres éléments de rapprochement, comme l'explique Kai Arzheimer.
L'un des éléments clés, c'est une certaine admiration pour Poutine, son leadership autoritaire et ses déclarations très dures, qu'elles soient visées de politique intérieure ou extérieure. Il y a aussi, bien sûr, des points communs sur le fond, comme le rejet des droits des minorités en général, des minorités sexuelles, de l'égalité entre hommes et femmes. Et puis il y a une autre sorte de lien. On sait que certaines personnalités de l'AFD sont régulièrement invitées en Russie. Leurs voyages sont payés, donc il y a certainement des avantages financiers pour certains membres de l'AFD.
Et finalement, Delphine, peut-on dire que l'AFD est le bras de la Russie en Allemagne ?
Oui, d'une certaine manière, car l'AFD relaie les positions et la propagande de Moscou sur le dossier ukrainien, notamment via les médias sociaux, mais aussi via les discours de ses députés au sein même du Bundestag. D'ailleurs, dans le reste de la classe politique, on évoque de plus en plus de possibles risques d'espionnage par des membres de l'AFD au profit de la Russie.
Merci Delphine Nerbollier à Berlin. Où trouve-t-on des relais des idées de Poutine en Europe occidentale ? Pas uniquement dans l'ancienne sphère soviétique, de la Hongrie à la Slovaquie, en passant par l'ex-RDA. C'est la question que j'ai posée à Tatiana Kastueva-Jean, chercheuse et directrice du Centre Russie Eurasie à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Il y a aussi parmi les différentes forces politiques dans nos propres sociétés occidentales, les forces qui sont très sensibles au discours de Vladimir Poutine. En général, ce sont les forces qui se situent à l'extrême du spectre, l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et comme Vladimir Poutine critique beaucoup les États-Unis, la domination, les doubles standards, etc., donc ça trouve un écho parmi ces forces politiques. Par ailleurs, il y a une mauvaise interprétation de la notion de souveraineté. Vladimir Poutine ne cesse de parler de la souveraineté. Donc ça parle beaucoup à différentes forces souverainistes. Mais curieusement, cette souveraineté, elle existe pour les grandes puissances, pour la Chine, les États-Unis, pour la Russie, et pas pour les petites, comme l'Ukraine, qui est considérée comme étant dans la sphère d'influence historique russe. Je me souviens d'une conversation avec un occidental qui disait « il faut que l'Ukraine soit dans une sorte de zone tampon entre la Russie et l'Occident, que ce soit un pays neutre ». Donc au fond, il s'agit de priver ces pays de choix stratégiques et de leur imposer une sorte de doctrine de souveraineté limitée, ce qui était le cas à l'époque soviétique.
Et puis, il y a aussi, bien sûr, la question civilisationnelle qui est défendue par Vladimir Poutine et qui peut séduire certains partis, je pense, plutôt d'extrême droite.
C'est ce qu'il met en avant, en effet, c'est sa thèse. Il positionne la Russie comme étant un état-civilisation qui a ses propres valeurs à défendre, qui sont les valeurs différentes de l'Occident décadent et amoral, fin de citation. Et en effet, ces valeurs traditionnelles, anti-homosexuelles, toute cette mouvance-là, c'est un discours porté par Vladimir Poutine qui trouve beaucoup d'écho dans les milieux conservateurs et parmi l'extrême droite notamment.
Dans d'anciennes républiques soviétiques comme les Pays-Baltes, mais aussi en Pologne, c'est là qu'on trouve une des plus fortes oppositions à Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a une tentative de la part de Moscou de mener une guerre hybride pour lutter contre cette opposition ?
On a beaucoup parlé, après l'annexion de la Crimée, du scénario de Narva, c'est-à-dire l'instrumentalisation des minorités russophones, notamment dans les pays baltes, qui ensuite pourraient s'insurger contre les gouvernements centraux et créer un chaos, une déstabilisation politique dans ces pays. C'est-à-dire, ce serait une situation assez compliquée pour l'Occident pour réagir. Ce serait en dessous du seuil de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, donc il n'y aurait aucune raison pour l'OTAN d'aller s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre État membre de l'OTAN. Mais on voit que ce scénario n'a pas eu lieu, que finalement les pays baltes arrivent à maîtriser ce type de problème et préserver la stabilité et la paix sociale. Il est difficile de dire dans quelle mesure à l'avenir ce genre de scénario puisse se réaliser. Mais moi, je pense que le risque le plus grand, c'était en effet après l'annexion de la Crimée. Aujourd'hui, ce risque semble pas complètement effacé, mais un peu moindre.
Sous contrôle.
Sous contrôle.
Tatiana Kastueva-Jean, auteure de La Russie de Poutine en 100 questions aux éditions Talendier. Ingérence russe, le mot est sur toutes les lèvres à Bruxelles à quelques mois des élections européennes. 2 ans après le Qatargate, où les soupçons de corruption portés sur le Qatar et le Maroc, plusieurs autres scandales viennent secouer l'hémicycle. Laure Boulard, vous êtes une de nos correspondantes à Bruxelles. Cette fois, tous les soupçons se tournent vers Moscou.
Aujourd'hui, place au Russia Gate, révélé fin janvier par The Insider, un média d'investigation russe basé en Lettonie. Le journal accuse Tatiana Ždanoka, une eurodéputée lettonne, ancienne membre du groupe des Verts, d'avoir été une espionne pour le compte du Kremlin pendant une vingtaine d'années. Dans la foulée, le Parlement européen a ouvert une enquête et le 6 février, la mise en cause a nié en bloc en séance plénière, déclenchant un débat houleux dans l'hémicycle. Écoutez l'eurodéputée tchèque écologiste Marcel Kolaya.
Nous devons enquêter sur l'étendue de l'influence du FSB en Europe et les empêcher d'atteindre les sphères politiques les plus élevées. Nous devons également dévoiler les flux financiers de Russie qui soutiennent des organisations et des politiciens européens qui propagent des discours de haine à l'encontre, par exemple, des personnes LGBT. Leur objectif est clair, diviser nos sociétés.
Et la Française Nathalie Loiseau du groupe des Libéraux.
Chers collègues, souvenez-vous que la manipulation russe est une arme de destruction massive de notre démocratie.
Dans une résolution votée 2 jours plus tard, le 8 février, le Parlement pointe du doigt les financements fournis par la Russie à certains partis, politiciens ou fonctionnaires afin de s'immiscer dans les processus démocratiques européens. En ligne de mire des eurodéputés, l'extrême droite, qui serait l'intermédiaire de nombreuses tentatives d'ingérence visant à affaiblir le soutien de l'opinion publique à l'Ukraine.
Et en France, lors justement, la DGSI s'intéresse à Jean-Luc Schaffhauser, ancien député européen du Rassemblement national.
Et oui, puisque selon les informations du journal Le Monde, Jean-Luc Schaffhauser porte un projet de liste pro-russe en vue des élections européennes de juin avec l'aide de figures proches de l'extrême droite. Son slogan « Pour la paix avec la Russie » a le mérite d'être clair. La DGSI a notamment creusé les liens de cet ancien membre du RN, alors Front National, avec les services secrets russes. En parallèle, Viginum, le service français chargé de la protection contre les ingérences numériques, multiplie les alertes. La dernière en date a poussé Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, à adresser ce message aux Français à la mi-février.
Viginum a détecté pas moins de 193 sites qui se font passer pour des sites d'information. Ces sites dormants, pour la plupart, ont pour but de propager des fake news, des points de vue qui servent les intérêts de la Russie. Ils diffusent des fausses informations sur l'Ukraine. Ces ingérences étrangères cherchent à vous manipuler. Nous avons déjà démasqué des usines à trolls, des copies de sites internet d'institutions ou de médias. et les administrations compétentes sont pleinement mobilisées.
Selon Viginum, ce réseau, baptisé Portal Combat, en référence au célèbre jeu vidéo Mortal Kombat, est très structuré et aurait la capacité de publier des contenus de manière massive et automatisée. Les attaques devraient d'ailleurs s'intensifier en vue du scrutin européen. Plusieurs ministères français ont d'ailleurs fait l'objet d'attaques informatiques inédites ces derniers jours, selon le gouvernement.
Et à noter la mesure récemment adoptée par le Parlement européen qui veut interdire toute publicité politique étrangère 3 mois avant les élections, mais son entrée en vigueur n'est pas prévue avant 2025. Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site, sur l'application Pure Radio et sur les réseaux sociaux. L'actualité continue sur RFI.